je viens vous acheter votre jardin.
Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais il n'en est pas question.
Mais si, monsieur, tout se vend, tout s'achète. 1 million!
C'est non, c'est impensable.
100 millions!
C'est bon, il est à vous.
CO2, mon ami.
Pourquoi vous êtes venu acheter mon jardin?
Pour en mettre un autre à la place, monsieur, c'est tout simple. Vous allez voir. D'abord, je coupe tous les arbres. Après, je creuse. Un trou, un gigantesque, un énorme, un fantastique trou. Et après, avec ce trou, cet immense trou.
Avec Denis Chessou.
Qu'est-ce que je fais? Une décharge. Une décharge pour les ordures. Attention, des ordures nobles.
Sur France Inter.
Des déchets d'une toxicité mortelle.
Mais oui, d'ailleurs on reviendra aussi sur les déchets, on fera une émission, on peut en faire quasiment à l'infini, mais enfin quand même pas toutes les semaines. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement qui prend le temps de ne pas aller trop vite, de ne pas trop galoper, émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, même si parfois c'est un peu clivant, et tant mieux, c'est le principe de l'environnement. À la technique, il y a Kevin Pelot et Gilles Gaillard aujourd'hui, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestudia qui réalise l'émission. En quoi tu te déguises pour Halloween, pour faire peur la semaine prochaine? Oh, bah moi je vais me déguiser en CETA. Ah oui, t'as raison, ça fout la trouille. Hein. Et toi, en perturbateur endocrinien ou en glyphosate? Ah ouais, pas mal, et puis c'est quand même très tendance, hein, ça occupe bien d'espace. Et toi, bah moi je vais me déguiser en réchauffement climatique. Bon, alors là, écoute, tout le monde s'en fiche. Ça fait vraiment pas peur dans un pays tempéré comme le nôtre. Tu peux mouliner ça au kilomètre des années durant, écouter un magazine d'environnement plus ou moins ridicule le samedi à 14h. Il n'y a que Hulot, 3-4 ONG et quelques villes qui se sentent concernées. Hein. Là, tu vas faire rire les mômes avec ça, ça fait même pas peur. Ah ben alors, je sais pas, je vais me déguiser en loi ou en code du travail. Ah non. Là, tu vas vraiment faire flipper tout le monde. Hein. Ça, je te l'interdis. Hein. Je te rappelle que Halloween, c'est quand même une fête. Donc, tu vas nous trouver quelque chose d'autre. Tu fais dans le classique, je sais pas, en loup, en néonicotinoïde, en Laurent Wauquiez, ou alors tu restes sur le glyphosate. Ça, c'est quand même, c'est moins violent. Glyphosate, toujours difficile de décrocher. La clope, l'alcool, le pétrole, l'urbanisation, le PIB, le portable, bref, nos drogues modernes, et dans les champs, décrocher du glyphosate. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il est très efficace le truc. C'est vrai, de la tête aux pieds, de la racine aux feuilles, 8000 tonnes en France, neurotoxique, cancérigène et pas cher. Allez, je vous en mets un bidon de plus, c'est cadeau. Contredire les rapports, acheter la signature des scientifiques, regarder le film et le livre de Marie-Monique Robin, le Roundup face à ses juges, jouer la montre, Bayer et nos amis allemands qui ont racheté Monsanto, l'affaire n'est pas simple. La santé, rappelez-moi combien de divisions. La casse est payée par qui? Ah, par tout le monde. Ah, ben là, d'accord, ça va mieux. On a tous en nous quelque chose de glyphosate, de perturbateur endocrinien, c'est ça l'homme augmenté par la chimie. Et j'entendais chez l'ami Mathieu Vidal, alors c'était sur un autre sujet, hein, un scientifique cette semaine qui disait « il faut rendre Mars vivable ». Alors je ne sais pas ce qu'il avait pris parce qu'il était vraiment à donf, mais avant de se trouver un plan même pas B, peut-être faudrait-il aussi garder la Terre habitable. Moi je dis ça, je dis rien, c'est juste une suggestion. Car Dieu que la terre est jolie, comme la vie fut lente à se fabriquer et comme, heureusement, notre espérance est toujours violente. Alors Hulot souhaitait arrêter donc les frais du glypho qui zappe de plus en plus d'ici 3 ans. La Commission européenne, à la pointe de sa sensibilité environnementale bien connue, propose 10 ans. Le Parlement européen, 5 ans. Alors il faut du temps, c'est vrai qu'il faut du temps. Pour faire tourner le navire à l'agriculture, changer en accompagnant les pratiques conventionnelles, faire avec le sol, car notre modèle s'est quand même bien construit autour de ce fameux glyphosate. La décision sera prise dans quelques jours, donc on va laisser passer le 1er novembre. D'ailleurs, avec un corps bouffé par glyphosate, est-ce que les lombrics voudront encore de nous? Ça, on ne sait pas. On pourra dans les cimetières, en tout cas pour faire propre, répondre. Alors, vous savez, encore un peu en douce, un peu les stocks qu'on a planqués dans les placards. Mais il serait en tout cas urgent de réviser l'expression bien connue, bouffer les pissenlits par la racine, car des pissenlits, il n'y en a plus. Je Je vous le disais, donc, Méli Mélo de sujets ayant raciste avec une start-up, un lâcher de guépard, une parole de jeune avec des boulangers cantaliens, une grive musicienne, un docteur Laurent Chevalier, pas de raton laveur, et aussi, donc, passer un petit peu à côté des écrans radars, une loi littorale qui revient un tout petit peu sur le tapis. Alors, bonjour à vous, Jean-Laurent Félicia, parce que vous êtes à la fois conseiller municipal au Lavandou, vous êtes paysagiste, et puis donc, vous êtes aussi à la tête de cette pétition Ne touchez pas à la loi littorale. Alors, rappelez-nous, s'il vous plaît, d'abord les visées de la loi littorale.
Bonjour Denis. Alors, en 1986, les députés, les sénateurs, en fait, les parlementaires français font le constat que le littoral français métropolitain, mais aussi outre-mer, est en train d'être muté par une urbanisation qui a commencé pratiquement dans les années 70. Donc, ils votent cette loi littorale, à la demande de Jacques Chirac, d'ailleurs, qui dit, en tant que Premier ministre, « Moi, je veux qu'on arrête cette construction exponentielle et illimitée. » Donc on crée cette loi littorale qui fait vocation premièrement aux espaces remarquables, à la bande littorale avec les fameux 100 mètres de littoral à protéger, afin d'éviter cette continuité d'urbanisation. Et malheureusement, cette loi littorale, elle est votée à l'unanimité des deux assemblées, mais il n'y a pas de décret d'application.
Ah, il n'y a pas de décret d'application. Mais en fait, il y a eu des jurisprudences qui fait qu'on a navigué au gré de ces jurisprudences.
Oui, alors on a navigué, je dirais presque de manière régionale. Tantôt, c'était jugé de la sorte en baie d'Audierne, en Côte d'Opale ou dans le golfe de Gascogne. Et puis tantôt, on allait un peu de manière différente en Corse, sur le littoral varois, en Languedoc-Roussillon. Mais cela dit, la loi littorale a tenu le coup.
Alors, le 27 septembre dernier, donc, il y a eu une proposition de loi du député LR d'Ille-et-Vilaine, Gilles Lurton, et qui, en fait, veut quand même sacrément écorner cette loi. Et alors, vous aviez déjà lancé, d'ailleurs, cette pétition « Ne touchez pas à la loi littorale ».
On co-signé au tout début, Yann Arthus Bertrand, Isabelle Autissier, Alain Bourin-Dubourg, Michel Ribasi, Gilles Clément, mais aussi Nicolas Hulot, actuellement ministre d'État. Et donc, à partir de cette pétition, il montait en flèche 280 000 signatures aujourd'hui, qui est d'ailleurs un peu le poids de ce combat contre cette proposition de loi. Bim, en juin dernier, Paris, Gilles Lurton, qui cherche en vain à reprendre à son actif cette loi, en y rajoutant, alors c'est assez fort, dans le titre générique, densification de l'urbanisation dans les espaces littoraux.
Alors concrètement, ça signifierait quoi si jamais cette loi devait passer ?
Quand on est amoureux du littoral, quand on veut se porter garant de sa protection, on doit détricoter la loi littorale. Et quand on lit la proposition de Gilles Lurton, comme la proposition de loi qui a été déposée par les sénateurs le 13 septembre dernier, concomitamment à Gilles Lurton à l'Assemblée nationale, on sent bien qu'il y a cette volonté, je dirais presque forcenée, de faire tomber la loi littorale pour ouvrir des espaces à urbaniser, tout simplement, et notamment les dents creuses, qui fait l'objet depuis 30 ans d'attaques incessantes.
Ce qu'on appelle les dents creuses, rappelez-nous s'il vous plaît.
Eh bien, ce sont des espaces qui ont été laissés, je dirais, inconstructibles, parce qu'il fallait justement éviter un cordon urbanisé tout au long du littoral, et la loi littorale le permettait, elle protégeait ces fameuses dents creuses.
Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant ?
Eh bien, continuer le combat, je suis pas seul, parce que 280 000 signatures, d'ailleurs, on avait atteint les 200 000 signatures en moins de 12 jours. Je voudrais que le président Macron, qui avait signé un engagement pour faire respecter la loi littorale sans la détricoter, que le ministre d'État, Nicolas Hulot, s'engage lui aussi à faire en sorte que cette proposition de loi qui arrive à l'Assemblée nationale ou une autre au Sénat n'aboutisse pas. On a besoin de ce littoral comme un cordon salutaire à notre trait de côte qui est en train malheureusement de se faire grignoter par la montée des eaux.
Bien sûr.
Et que tous les autres autour de nous, qu'ils soient de baie d'Audierne, de Côte d'Opale, du Cap Corse ou de Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, enfin de tous les territoires qui portent haut cette loi littorale, continuent à faire signer cette pétition et à défendre la loi littorale, quoi qu'il arrive.
Ne touchez pas à la loi littorale, donc c'est votre pétition que l'on retrouve sur le site de CO de Mon Amour. Un grand merci à vous, et puis à très bientôt. Au revoir Jean-Laurent.
Merci Denis, merci bien.
Et puis bien sûr, il y a eu des réactions par rapport à la semaine dernière, avec Jocelyne Porcher qui était là, Frédéric Danhué, Vegan, etc. Donc elle proposait une troisième voie. Alors voici, d'abord, premier point, le régime végétarien exclut toutes les protéines animales de l'alimentation, donc pas de poisson dedans, Frédéric Danhué a reconnu son erreur sur Twitter. Je lui ai dit « Tu ne prends pas de bière en tant que ch'ti avant l'antenne ». Non, c'était pas le cas. Le végétarien, donc, ne mange pas de poisson, même pané, avec de la sueur et des yeux dans les coins. Pas du tout. Et puis, bien sûr, des réactions. Je vous en donne deux parce que c'était quand même assez réparti. C'était très chaud dans les deux cas, je vous le cache pas. Et voici deux types de réactions qui sont arrivées, en fait, sur le répondeur 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis. Tout d'abord, un grand merci à toute l'équipe de CO2 Mon Amour. Voilà un petit message pour revenir sur l'émission du 21 octobre dernier. Enfin, et merci d'avoir parlé du discours médian, médian entre deux extrêmes, dont on parle un peu trop exclusivement de nos jours. Et oui, entre les fermes-usines et la permaculture, entre le fait de manger de la viande deux fois par jour et le véganisme, il y a et il existe des fermes à taille humaine, des exploitations qui sont le plus souvent certifiées en production biologique, des agriculteurs qui produisent des produits de qualité, des animaux élevés en plein air, des éleveurs qui ont conscience du bien-être animal, etc., etc. Juste pour dire, les petits paysans existent, ne les oublions pas. Bonne journée à tout le monde, au revoir.
Bonjour, c'est Fabienne, continuons comme ça. C'est extrêmement important d'avoir des animaux fermés dans des prés. Ça nous permet d'accepter nous-mêmes d'être fermés dans des usines, dans des bureaux, dans des salons, à regarder la télé quand on est un feignant de chômeur. Il faut vraiment que chacun se rappelle ce que c'est que la vie. Et puis continuons de produire des animaux qui pèsent une tonne, qu'il faut absolument contenir parce qu'effectivement ils peuvent être dangereux. Oh, mais ça manque d'imagination tout ça, ça manque vraiment d'imagination nos jeunes people. Allez, au revoir.
Alors on sent bien évidemment que les uns et les autres ne vont pas passer évidemment à 31 décembre ensemble, c'est assez clair. C'est vrai que notre sociologue de l'INRA, Jocelyne Porcher, a une formulation à un moment un petit peu carré en disant que les véganes ne connaissaient pas grand-chose aux animaux. Réaction plus émotionnelle que raisonnée. D'ailleurs, je lui dis, je vous balance les mails, hein, je vous les envoie. Elle les a reçus parce que vous n'êtes pas gêné et vous avez eu raison. Ça sert aussi donc à ça. Et puis moi je peux vous renvoyer donc à cet ouvrage qui s'appelle « La domination humaine », qui est signé Pascal Corbin, qui est très bien fait donc, sur le sujet. On va vous mettre donc, les coordonnées sur le site, donc la domination humaine de Pascal Corbin. Voilà, donc le sujet ne se referme pas hein, là-dessus. Moi, j'avais fait un reportage, je ne vous cache pas qu'effectivement, comme il y avait eu à peu près une trentaine d'interventions diverses et variées depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, donc les véganes ont quand même eu pas mal la parole, hein, c'est vrai, sur France Inter. Bon, j'avais fait ce reportage sur la VG Pride. Et puis, bah, là, il fallait aussi donner la parole à cette troisième voie. Après, mais les gens font bien ce qu'ils veulent. Voilà, mais c'est intéressant d'avoir effectivement des réactions et les vôtres, bien sûr, aussi en particulier. Six sujets nous attendent dans ce méli-mélo de reportages, de sujets sur France Inter. C'est au de mon amour.
C'est au de mon amour sur France Inter.
Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène, la scène.
Thank you. toujours bien ça, donc c'était donc la scène Vanessa Paradis et M sur France Inter, choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice. Ah, on va changer de climat, vous l'avez très bien compris, on n'est pas du tout au bord de la Seine, non, on va partir du côté du Kenya. Et donc notre deuxième sujet après la loi littorale, les guépards. Il fait pas forcément très très bon d'être guépard. Tony Crosetta est photographe, il a créé l'association Cheetah Forever, et donc on va partir du côté du Maasai Mara, mais évidemment que Tony Crosetta, ce guépard, est chassé aussi ailleurs.
Alors il est quand même chassé dans certains endroits du globe, notamment en Namibie, pour la chasse de loisirs. Évidemment c'est quelque chose de terrible, parce que c'est vraiment très facile de tirer un animal qui par ailleurs est facile à trouver sur les termitières. Mais le guépard a d'autres problèmes évidemment, il y a pas que la chasse, il y a la raréfaction des territoires, le trafic. Alors, évidemment il court vite, on le sait que c'est le plus rapide.
Non mais il faut peut-être le rappeler quand même, c'est-à-dire qu'il est capable quand même de faire, je crois, du 115 km/h en 3 secondes.
Ouais, on est dans les
110,
entre 105 et 110. Ouais. Capable de partir. Alors ça lui sert évidemment pour attraper des proies, mais ce n'est pas suffisant. Le guépard, c'est un animal qui est extrêmement fragile, qui est très spécialisé. Il a besoin de rattraper des proies à la course, donc il ne plie même pas charognard. Donc il faut qu'il apprenne ce long processus qui lui permet de chasser. Mais la course ne lui suffit pas à résister aux autres grands prédateurs, les lions, les hyènes, les léopards.
C'est
et malheureusement
sprinter,
aussi, surtout l'homme.
C'est un sprinter, c'est ça?
C'est un sprinter.
Mais il a des animaux plus gros que lui, comme le lion, comme la hyène. Alors lui, il chasse plutôt le jour, justement.
Alors c'est un animal diurne, évidemment, et il chasse de jour. Mais pour autant, il est vulnérable aussi la nuit, puisque la nuit, il est obligé de se planquer un petit peu. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'entrent en action les grands prédateurs, que sont notamment les lions et les hyènes, qui font pas de quartier. Alors on en trouve dans toute l'Afrique subsaharienne. Alors évidemment, on n'en trouve plus beaucoup. Hein. Je relisais les chiffres tout récemment. Il y a encore 20 ans, il y avait 15 000 guépards. Aujourd'hui, les chiffres admis sont 7 100. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% des effectifs qui ont disparu en l'espace de 20 ans. Et il en reste dans quelques endroits en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Quelques-uns aussi en Afrique de l'Ouest et au Sud-Sahara, mais ceux-là vont disparaître très rapidement.
Un peu en Asie ou pas?
Ah, il en reste en Asie, il en reste une population, on dit entre 40 et 60, hein, d'une sous-espèce qui vit en Iran spécifiquement. Mais bon, on n'entend pas beaucoup parler, il y a très peu de programmes, de projets, il y en a tellement peu de spécimens que les prévisions à long terme sont pas très optimistes.
Et lorsque l'on voit son visage, alors c'est assez étonnant parce que vous avez deux lignes noires qui sont en forme de larmes, donc
oui,
qui descendent.
L'armier, on appelle ça.
L'armier, le long des yeux. Ça sert à quoi? Le protéger de l'éblouissement?
Alors
du soleil,
il y a deux choses. Alors évidemment, il y a la légende africaine qui veut que le guépard pleure ses confrères perdus, enfin pleure ses morts. Mais dans la vraie vie, encore que ça reste à démontrer, c'est que en fait, cet animal qui voit particulièrement bien. Qui voit dans la savane, il chasse deux jours. Et donc, en fait, il est capable de voir très loin. Et pour éviter la réflexion de la lumière sur sa rétine, le noir qui est juste en dessous améliorait ses capacités visuelles.
Et ça l'aide aussi à se concentrer, peut-être sur sa proie aussi?
Alors ça, je ne sais pas. Peut-être pas forcément ça, mais effectivement, puisqu'il a besoin de voir loin.
Ouais.
Et donc, effectivement, il peut voir 400, 500, 600 mètres. C'est très étonnant de voir la distance où il est capable de repérer une proie. Moi, quand je vois qu'il est intéressé, je mets un coup de jumelle. J'ai beaucoup de difficultés à déterminer une gazelle de Thompson, qui est le plus souvent sa proie favorite, hein, qui sont des petites gazelles, qui plus est cachées souvent dans les herbes. Et le guépard, lui, est en mesure de les voir. Donc c'est quand même un animal qui est assez extraordinaire.
Facile ou difficile à repérer lorsque l'on est photographe comme vous, ou bien simplement avec ces
gens? Alors au départ, avec pas d'expérience, c'était très compliqué. On tombait un peu dessus par hasard. Bon, maintenant j'ai quand même une petite expérience du terrain. Je passe 6 mois du temps dans le Maasai Mara, donc je connais les endroits par où ils passent, je connais les termitières spécifiques, les endroits où ils peuvent se dormir, se cacher.
Termitières parce qu'ils mangent aussi.
Alors il a besoin de monter sur un promontoire, naturel ou pas, parce qu'il lui arrive parfois pour certains spécimens
la
de monter sur
lui véhicule. Sert d'escabeau, quoi. Voilà.
Exactement, c'est ça. Et donc ça lui permet de voir loin et mieux. Et de déterminer, d'une part, s'il y a des proies dans les parages, et d'autre part aussi s'il y a des prédateurs. La démographie des hyènes a explosé en même temps que celle des hommes. Et quand il y a une hyène, c'est même pas la peine qu'il a chassé, parce qu'il va se faire piquer la proie immédiatement. Donc en fait, il va plus loin chercher son tapot de chasse.
Nos chers faux ne vont pas très très bien, on le sait, pour le tigre. Le lion aussi, c'est pas forcément évident. Là, on parle donc du guépard. Pourquoi vous êtes intéressé, vous, Tony Crosetta, au guépard?
Il a été mon compagnon, parce que depuis plus de 25 ans maintenant que j'œuvre, que je photographie les animaux, et particulièrement le guépard, qui est quand même un animal un peu... c'est une peluche, hein, c'est un animal qui est extraordinaire. Il reste aujourd'hui dans le Maasai Mara entre 34 et 36 guépards. exactement.
Dans le Maasai Mara.
Dans le Maasai Mara. Ouais. Alors qu'il y a encore 20 ans, 25 ans, quand je me baladais en une journée de safari, je pouvais voir 14 ou 15 spécimens différents sans avoir à les chercher. Aujourd'hui, bah, je vais les chercher spécifiquement. Il y a une femelle ittifiée de petits, deux mâles, une fratrie de deux mâles. Et force est de constater, maintenant tout le monde l'admet, que le guépard, il est en danger d'extinction. On est dans le rouge, là. On est vraiment. En fait, il n'a plus de place. Voilà, le Maasai Mara, alors, il peut vous sembler grand si vous y allez en safari un jour. Vous allez voir que c'est immense et les plaines infinies. Mais en fait, c'est jamais que 1500 km² et des aires de conservation limitrophes qui sont habitées par les Maasai, puisque évidemment, ce sont des éleveurs et puis ils ont le droit d'habiter aussi où ils sont nés. Et donc, en fait, bah, là où il y a l'homme, il n'y a plus de proie. Et quand bien même il n'y a plus de proie, il y a quand même des petites brebis que le guépard peut capturer occasionnellement. Oui. Évidemment, les représailles sont directes. Hein, ils sont empoisonnés ou tués à la sagaie ou par le tir. Et donc, le guépard, qui est un animal erratique, qui a besoin de beaucoup d'espace, n'a d'autre alternative que de revenir à l'intérieur du parc, là où sont présents ses concurrents directs, les lions qui sont à la fois un tueur et un destructeur du guépard, parce qu'il ne tolère pas la concurrence, les hyènes qui capturent les petits, hein, les chiffres, encore un autre chiffre, les scientifiques, enfin les observateurs, admettent que un petit seulement sur 20 survivra, et je peux vous assurer que, d'après ce que je peux en voir, c'est plutôt moins.
Quelle solution lorsque l'on est un occidental bien installé, on n'a pas de guépard chez nous, me semble-t-il, en tout cas dans la Beauce ou ailleurs. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, il y a votre association, donc Cheetah Forever.
Alors Cheetah, c'est le nom anglais du guépard, hein, c'est pas le nom de la guenon de Dactari.
Non, mais vous êtes bien d'accord.
Tout le monde ne le sait pas.
CH.
CH2ETH. Alors, on a décidé de monter une association avec des amis qui sont des habitués, des aficionados du safari, des photographes, enfin des amoureux de la nature. Mais l'idée, c'était pas d'arriver en disant aux Maasai, laissez-nous on va vous montrer qu'en fait. Ce sont les Maasai eux-mêmes qui œuvrent sur le terrain et qui protègent leur guépard. Enfin, c'est pas leur guépard, c'est les guépards appartiennent au patrimoine universel. Voilà, donc on a une association française qui récupère de l'argent, parce qu'évidemment, on a besoin d'argent. Je vais vous expliquer pourquoi.
Une plateforme GoFundMe.
Voilà, c'est ça. Donc avec le magazine 30 millions d'amis, qui est notre partenaire. Et l'idée, c'est d'acheter un 4x4 supplémentaire. Alors pourquoi un 4x4? C'est que pour surveiller, puisque c'est le but de l'action de Cheetah Forever, ce sont que les Maasai surveillent 24 heures sur 24, jour et nuit, les femelles gestantes ou qui sont en charge de petits, pour éviter autant que faire se peut la prédation, la destruction, le trafic. Il y a du vol de bébés guépardos, hein, qui ont une valeur marchande très importante.
Ah, il y a des gens qui achètent le bébé guépard.
Oui, bah vous googlisez Dubaï Cheetah et vous allez comprendre, c'est éloquent. Il y a des gens qui ont des animaux domestiques et évidemment le guépard c'est très attractif, parce que c'est un animal qui est docile. Bah, quand il y a aussi cette mode pour le tigre et pour le lion, mais le tigre et le lion, au bout de 18 mois, il faut le planquer un peu dans le guépard.
Voilà.
Donc il y a des vols de bébés guépardos et il y a un trafic qui passe par l'Afrique de l'Est, voilà, et ça part en bateau sur la péninsule arabique. On a sauvé 11 guépards d'eau en 2 ans et demi. Alors, vous allez dire, c'est dérisoire. Mais ramenez ça aux 34 guépards adultes qui vivent encore dans le Maasai Mara. Donc, on a besoin, il faut comprendre que pour surveiller une femelle guépard, une seule, il faut 2 véhicules. Il faut un véhicule qui se relaie et ils font 2 fois 12 heures. Hein. C'est un travail qui est terrible, qui est pénible. Et ça dure 3 à 4 mois, du moment où les petits guépards naissent jusqu'au moment où ils sont en mesure de se débrouiller un petit peu, se sauver par la course, encore une fois, et d'éviter leurs prédateurs.
Bon, écoutez, on vous souhaite le meilleur, vive les guépards et...
Je vous remercie.
Et à bientôt, Tony Crosetta.
Merci beaucoup, au revoir.
Ben voilà, donc, ode au guépard dans CO2, mon amour. Et puis, on va passer au troisième sujet, alors qui va être un tout petit peu différent. On va s'intéresser à notre porte-monnaie. Alors, Eva Sadoun, bonjour à vous. Vous avez créé avec Julien Benayoun l'ITA.co. Vous avez 27 ans, et donc cette parole de jeu nous intéresse bien. Et vous avez donc l'ambition d'orienter notre épargne dans l'entrepreneuriat social et durable. Alors, c'est différent de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc, racontez-nous, Eva Sadoun.
Bonjour. Alors pour nous, l'entrepreneuriat social et durable, c'est des nouvelles entreprises qui se développent pour répondre à des problèmes sociaux, sociétaux ou environnementaux. Donc ils développent un modèle d'entreprise, un modèle économique pour répondre à des problèmes de chômage, d'inclusion, pour développer des modèles en faveur de la transition énergétique, écologique et sociale. Donc c'est ces entreprises-là, ces entrepreneurs-là qu'on souhaite soutenir à travers l'ITA.co.
Alors le point de départ, c'est quoi? Ce sont 2 jeunes qui ont fait une école de commerce. Hein.
Exactement. Voilà. Qui ont d'abord monté une ONG dans le domaine de l'éducation il y a 10 années et qui derrière ont voulu s'engager en fait avec leurs compétences en finance, avec tout ce qu'on nous a appris dans nos belles écoles de commerce, mais en essayant de la transformer et de la challenger, cette finance-là, au profit de cet entrepreneuriat social qui, pour nous, est l'avenir aujourd'hui de l'économie.
Oui, c'est ça. Non, vous vous sortez un peu des clous, on va dire.
Complètement. Hein. On est un petit peu en marge, mais ça se démocratise davantage en ce moment.
Alors, l'idée, c'est quand même d'être actionnaire, oui. Mais pas, on va dire, d'être actionnaire complètement irresponsable.
Tout à fait. C'est qu'on veut réconcilier un peu les gens et l'économie sociale avec l'actionnariat. Et on peut permettre aux particuliers, en fait, de prendre des parts d'entreprises qui ont un impact positif sur la société et de vraiment être acteurs de leur épargne et pouvoir savoir vraiment où va leur argent en choisissant des projets qui répondent à leurs valeurs.
Lançons-nous avec des exemples.
On a pu financer Éthique foncièrement responsable qui développe des bâtiments à haute performance environnementale qui respectent voilà, différents critères, différents labels et qui derrière elle en fait des espaces de coworking et des logements et des commerces pour les acteurs du développement durable, les associations, les ONG.
Je vois qu'il y a aussi de l'éco-construction.
Il y a de l'éco-construction dans l'éthique foncièrement responsable, tout à fait.
De l'alimentation bio.
De l'alimentation bio, oui, oui. Voilà. Rue Tabago, voilà, qui fait des paniers repas pour les personnes qui souhaitent accéder à une alimentation plus diversifiée, plus bio. Et c'est aujourd'hui un des acteurs qui propose des réels paniers bio et nous permet de suivre, en fait, et d'avoir une transparence sur les aliments qu'on nous met dans les paniers repas.
Alors, j'imagine bien que vous travaillez beaucoup avec des start-up aussi ou...
Majoritairement.
Inévitablement, il y a une prise de risque, hein, c'est normal.
Effectivement, dans l'actionnariat, il y a une prise de risque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le principe, mais c'est vraiment le moyen d'avoir un maximum d'impact que de financer l'innovation sociale et environnementale. On propose aussi des entreprises un peu plus matures. En fait, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de diversifier leurs placements et d'avoir un portefeuille 100% solidaire, 100% responsable, 100% en ligne, mais en diversifiant les risques avec des entreprises matures, avec du taux à 7% sur, par exemple, de l'immobilier, bois. Donc, ça a permis aux particuliers d'avoir une rentabilité de 7% par an sur 3 ans, donc c'est quand même hyper intéressant par rapport à ce qu'il y a sur le marché actuellement. Et derrière, on veut leur permettre donc de limiter leur risque avec ce type de placement, mais de mettre une partie, 10, 30, 40% dans du plus risqué, dans des start-up qui ont besoin de cet argent, parce qu'aujourd'hui il n'est pas existant cet argent, et les banques ne l'investissent pas, les fonds de capital risque sont assez averses finalement à ce risque de l'innovation sociale, donc c'est aux particuliers, à la société civile de s'engager et de soutenir ces modèles.
Eva Sadoun, rappelez-nous votre parcours. Bon, vous passez votre bac, ensuite vous faites une prépa.
Une prépa ENS Cachan pour avoir les concours de Normale Sup en économie, puis finalement voilà, mes convictions entrepreneuriales n'ont pas vraiment plu à mon jury de normal, donc j'ai finalement décidé de faire une école de commerce où j'étais très contente d'intégrer l'EM Lyon, qui m'a donné des compétences.
C'était l'école de management de Lyon.
Hein. Exactement, oui. Qui m'a donné des compétences un peu en économie, en finance, et que j'ai pu mettre à profit du coup de mon projet par la suite.
Vous êtes partie en Inde ?
Je suis partie en Inde, effectivement, j'ai travaillé dans une plateforme de microfinance qui s'appelait Rangde, qui accompagnait des jeunes entrepreneuses qui, par exemple, avaient besoin d'acheter une vache pour vendre du lait, quoi. C'était vraiment l'entrepreneuriat.
Mohamed Younous n'est pas très très loin, on va dire.
Exactement, c'était inspiré du modèle de la microfinance de Mohamed Younous.
Et ensuite, vous revenez et vous créez, donc à deux, votre entreprise.
Avec mon associé avec qui j'avais fondé une ONG franco-togolaise dans le domaine de l'éducation, une petite dizaine d'années de là.
Alors, lita.co, on y va, ça veut dire le L, c'est celui de...
Live. Live, donc l'idée, c'est de vivre différemment. On se pose la question comment on consomme, comment on s'habille, et bien maintenant, on veut se poser la question de comment on investit.
Le I comme impact.
Impact, parce que l'impact positif, social et environnemental, c'est au cœur de notre activité.
Le trust.
La confiance, parce que c'est ce qu'on reproche au système bancaire, d'être opaque. Donc nous, on veut créer de la confiance dans l'épargne.
Et le A comme acte.
Parce qu'on propose également d'agir à travers son épargne, donc d'apporter ses compétences aussi aux entreprises qu'on investit.
Et là, combien vous êtes de jeunes chez vous, donc à l'Itaco ?
Alors, on est 15 salariés au sein de l'équipe, entre donc Milan, Bruxelles et Paris.
Alors, c'est quand même pas rien, parce que vous avez travaillé déjà avec plus de 25 entreprises, hein, c'est
ça ? Exactement.
Ouais. Et vous avez soulevé déjà combien ?
7 millions d'euros auprès de particuliers, et là, on lance la plateforme en Belgique et en Italie.
Alors, les motivations profondes que vous avez, vous, Eva Sadoun ?
Moi, mon but, c'est de transformer le secteur financier. Je trouve aujourd'hui qu'on a créé des intermédiaires sur intermédiaires sur intermédiaires, qu'on a opacifié la finance volontairement, qu'on l'a rendue peu audible auprès du grand public, et nous on veut la démocratiser, on veut faire de l'éducation financière et on veut permettre à tout à chacun d'avoir un vrai impact dans l'économie réelle et de la comprendre, cette économie-là.
Parfait, on vous souhaite donc le meilleur.
Je vous remercie pour votre invitation.
À très bientôt, Eva Sadoun.
À bientôt, au revoir Denis.
Ben voilà, donc notre jeune, ils bougent bien, ils n'ont pas envie de devenir tous traders, mais d'autres dans la finance, là aussi comme ça, mais c'est un peu quand même différent et ça valait le coup de mettre un petit coup d'éclairage à un homme qui ne sera jamais véritablement chanteur, mais ce n'est absolument pas son problème. Et il y a dans cette chanson qu'on va écouter la justesse de l'âme de notre interprète qui se marie avec l'âme aussi de son amie créatrice de cette chanson. Et vous pourrez entendre Depardieu vendredi soir sur France Inter entre 20h et 22h. Soirée vraiment à ne pas louper.
Une petite cantate du bout des doigts, hop, c'est dans tes mains la droite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite. cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite comme c'était toi. Les notes couraient facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, quelle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, et sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour pour toi, cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour pour toi, cette petite cantate qui monte vers toi, cette petite cantate qui monte vers toi.
J'ai besoin d'aide, monsieur Martin.
Comment ?
Un de mes amis est blessé. Je vous l'ai amené, il est dans la salle de soins.
C'est quoi comme race ?
C'est pas un chien, monsieur Martin, c'est...
Puis il va me chier partout encore, puis j'ai plus de femme de ménage.
Mais non, il est très propre.
CO2, mon amour.
Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un ami. Il est blessé à la cuisse, il a perdu beaucoup de sang.
Je suis pas médecin, Georges, moi.
Vous pouvez extraire une balle et faire un pansement.
Il a avalé la baballe. Il a avalé la baballe en jouant.
Oh là là, c'est chaud tout ça. C'est très chaud.
Mais
hein.
Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries ?
Faudrait mieux le piquer.
Denis chez Sous.
Eh oui, on pouvait faire le lien, hein, Carmé, Depardieu, avec un extrait du Fugitif, choisi par Xavier Pestudia, bien sûr, facétieux. Quatrième sujet. Ah, alors évidemment, parole de jeune, tout ceci va très bien, à condition que le QI de nos enfants soit en pleine forme. Alors, je vais me tourner vers vous, Laurent Chevalier, bonjour à vous, parce qu'on va parler, on va dire, d'hygiène chimique avec vous.
Bonjour, Denis. Alors, on a une baisse du quotient intellectuel chez les enfants, qui a été noté en Occident et notamment aux États-Unis, disons que c'est des pays où on a plus de statistiques aussi qu'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Alors, le QI, donc le quotient intellectuel, on estime qu'il dépend pour moitié d'un aspect un peu génétique et pour l'autre moitié des aspects environnementaux. Et dans les aspects environnementaux, il y a là aussi de différences. Premièrement, l'environnement familial, c'est-à-dire que la stimulation qu'on peut avoir pour stimuler ses enfants, de même que la stimulation qu'on peut avoir à l'école. Donc les maîtres ont des rôles tout à fait importants. Vous savez que Victor Hugo les appelait les jardiniers de l'esprit. Et puis, il y a la partie un petit peu chimique. Et cette partie chimique, malheureusement, a été très peu étudiée. Pourtant, on s'aperçoit qu'elle peut être avoir des effets tout à fait importants. Eh bien, elle peut avoir des effets importants dès la période fœtale sur la maturation du cerveau. Et comment ça agit ? On a les hormones thyroïdiennes qui agissent et qui permettent une maturation du cerveau. On sait depuis longtemps, par exemple, que quand vous manquez d'iode, comme ça arrive dans les Alpes, eh bien, il y a ce qu'on appelle le crétinisme. En fait, c'est un manque d'iode, donc un défaut de maturation de la thyroïde. Et là, on a des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des molécules qui sont assez bien identifiées et qui vont interagir avec les hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire qu'elles vont empêcher les hormones thyroïdiennes d'agir. Et du coup, mécaniquement, eh bien, on va avoir un défaut de maturation et on va avoir une baisse du quotient intellectuel. Il y a des substances, par exemple, qui sont très fortement suspectées, comme le chlorpyrifos, un pesticide, de pouvoir interagir comme ça avec la thyroïde. Mais on en a beaucoup d'autres. Donc, il faut être très prudent. Il faut tout faire pour limiter l'exposition à ces substances qu'on appelle perturbateurs endocriniens, qui modifie le métabolisme. On va le trouver, par exemple, dans les composés organiques volatiles. Faites attention quand vous achetez un produit de bricolage, regardez l'étiquette, vous choisissez toujours du A+. Ensuite, on peut l'avoir aussi, il peut y avoir des phtalates, on peut l'avoir tout simplement parfois dans des papiers peints, parfois dans la moquette. On a des composés organiques volatiles aussi quand on va coller la moquette, donc il y a des choses très simples, c'est d'utiliser du scratch. On va faire attention aussi aux cosmétiques. Vous savez, j'ai tendance à dire ou à expliquer aux patients que de limiter l'usage des crèmes, et notamment pour la femme enceinte. Pourquoi on limite l'usage des crèmes ? Quand vous avez une crème, vous avez de l'eau. Si vous avez de l'eau, vous avez un conservateur pour pas que les bactéries se développent. Si vous avez une crème, vous avez de l'eau et en plus, vous avez de l'huile. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute ? Un émulsifiant. Donc, vous avez un conservateur, un émulsifiant. Oui. Et certains sont assez suspects. Donc, si vous avez besoin d'utiliser un produit, par exemple, pour les vergetures, utilisez tout simplement un produit qui ne contient pas d'eau, comme de l'huile, l'huile végétale. Alors, pas l'huile minérale, qui est issue de la pétrochimie, mais les huiles végétales. On a de nombreuses huiles. Donc on peut utiliser l'huile d'argan, la rose musquée du Chili, etc., qui permettent de lutter aussi un petit peu contre les rides, de lutter aussi un petit peu contre les vergetures. Et donc, on choisit tout simplement un corps huileux. Donc, il y a des choses très, très simples.
J'aime bien parce que les parties du QI, on arrive aux vergetures quand même. Donc,
Non, mais d'une manière générale, limiter l'exposition à ces perturbateurs endocriniens, faire attention aussi aux produits ménagers que l'on utilise.
Non, mais c'est vraiment eux. Je veux dire que dans la grande famille, effectivement, des perturbateurs, ils le sont véritablement. C'est-à-dire que là, on parle du QI, donc le lien est quand même assez direct.
C'est-à-dire qu'on a un niveau de preuve qui est assez élevé. Souvent, on conteste en disant « oui, mais il faudra en savoir plus ».
Oui, non, d'habitude, oui, c'est ça.
Mais si vous voulez, nous médecins, quand on a par exemple une femme enceinte qui est en face de nous et qu'on a un doute sur un produit, on ne lui dit pas « madame, revenez dans 15 ans, on en saura plus ». Et donc, c'est toute la différence culturelle que l'on a avec les agences sanitaires aussi, qui veulent un niveau de preuve très élevé avant de donner des recommandations. Nous, on n'a pas besoin de ça. Si on a les éléments scientifiques qui alertent, eh bien, nous avons le devoir de donner les recommandations par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à des émissions comme CO2 Mon Amour, finalement, on apprend petit à petit à se prendre en main.
Et c'est pour ça que nous, on a pris en main Laurent Chevalier, comme ça, c'est très, très bien. Alors, on mange quoi ? Ça, c'est pour la nourriture chez Fayard. Et sinon, sur ces thèmes-là, quand même, vous avez aussi beaucoup travaillé, vous aussi, sur ces différents produits.
Alors, il y a le livre antitoxique, voilà. qui est un livre poche. De poche. Oui. Et puis, le guide antitoxique de la grossesse, chez Marabout aussi, qui donne des conseils extrêmement précis.
Voilà, donc c'était notre côté « Prenons soin de nous » aussi dans CO2 Mon Amour, on en a besoin sur France Inter. Cinquième sujet, là non, c'est pas le territoire des guépards, non, ça on laisse de côté. On va revenir en France pour une parole de jeune tout à fait intéressante, qui est différente de l'autre évidemment. Et on va partir dans le très beau département du Cantal. Alors il y avait des petits moucherons dans l'air, parce que c'était pas exactement la même période. On n'est pas loin de Murat, vous avez le plomb du Cantal qui est juste derrière, le Puy-Marie. On est dans une terre d'estive de vaches de Salers, peut-être pas des copines des véganes, hein, ça, bien sûr. Et on est dans le très joli village de Chalinargues. Alors vous avez un clocher à peigne parce que vous avez une église romane, donc là c'est vraiment tout à fait une des signatures de ce paysage auvergnat. Et puis on va rencontrer deux jeunes, Maël Cabet et Charlotte Bézy, et qui ont créé l'Ami Chamalou. Voilà, alors l'Ami Chamalou, en fait, ils se sont installés comme boulangers. Le Chamalou, c'est très simple, hein, vous avez le chat, c'est pour Charlotte, et le Malou, parce que le Maël, il devait s'appeler Malou quand il était petit, donc c'est devenu Chamalou. Et donc, ils ont en fait abandonné leur métier, ils ont fait une bascule, donc ça devient aussi intéressant, ils vont nous expliquer pourquoi, ils se sont tournés vers la boulangerie, et ça marche plutôt pas mal.
Bah, ça vient avec la sensation que dans le métier qu'on faisait, on ne se sentait pas vraiment utile à la société, pour parler clairement. Ça n'avait pas énormément de sens. On n'avait pas l'impression de passer beaucoup de temps et d'énergie finalement pour que les choses bougent très peu. Et on avait tous les deux envie de monter notre propre entreprise, de prendre un peu notre destin en main en fait, et d'utiliser la bonne énergie de la trentaine, puisqu'on estime que c'est un âge un petit peu où on a la gouache et on a un peu de recul sur sa vie, on commence à savoir ce qu'on a envie de faire.
C'est pas un truc utopique, hein, votre affaire.
Dans le concept, c'est un petit peu utopique, mais après, dans le concret, dans le projet, ouais. Ça l'est pas. Ça fait trois ans qu'on a mûri ce projet. Voilà, on a ouvert notre boulangerie et ça a été un parcours, pas forcément du combattant, mais on va dire 2 ans de maturation et 1 an de création, de travail. Donc, non, on peut pas dire que ce soit vraiment utopique. C'est beaucoup de travail et c'est ce qui permet d'aboutir aujourd'hui à ce projet.
Au départ, donc là c'est une maison, hein, c'est absolument une maison de ville, c'était pas du tout une boulangerie, il n'y avait plus de boulanger ici, il n'y avait plus rien.
Non, alors il y a juste un dépôt de pain, mais ouais, non, il n'y avait pas de boulangerie, et effectivement c'est une maison d'habitation que, nous loue la commune et que la commune a restauré pour nous, en fait, pour nous en faire un fournil.
Combien d'habitants chez Lignargues ?
400, un peu moins de 400.
D'accord, donc de jeunes qui sont là, ça peut quand même être assez génial. Et d'autant plus que maintenant, donc, les gens viennent quand même des alentours, parce que vous avez une qualité de pain qui est quand même assez remarquable. Donc les fournisseurs, tout ça, racontez-nous.
On a travaillé pendant quelques mois pour rencontrer donc des paysans qui font eux-mêmes leur farine et des meuniers aussi qui travaillent avec des farines de qualité. Donc on a choisi de travailler avec des gens engagés en agriculture biologique. Pas parce qu'on croit en ce mode de production, mais aussi parce que ce sont des gens qui proposent des farines de base, c'est-à-dire des farines où on ne trouve que la céréale, il n'y a pas d'additifs, donc on ne triche pas sur la farine. Le sel, on allait chercher au GAEC de la Salorge, qui est engagé en Nature et Progrès sur les marais salants de l'île de Lonne. Et après, nous, on a envie, voilà, pour valoriser ces farines-là, de travailler au levain, parce qu'on estime qu'il n'y a que le levain qui est capable de faire vraiment un pain de qualité. Ensuite, la cuisson au four à bois, qui est extrêmement importante pour nous. On s'est engagé, c'était un gros choix, en fait, parce que on hésitait à se lancer sur un four à bois, parce que ça demandait un investissement initial qui était quand même conséquent. Et en fait, c'est les gens du territoire qui nous ont motivés pour ça, qui nous ont dit, vu le pain que vous voulez faire, il faut pas démarrer sur un autre four qu'un four à bois. Il y a d'autres gens qui nous ont conseillé ça, donc on a dit, allez, banco, on se lance, et aujourd'hui, on ne regrette pas du tout, quoi.
Non, alors, donc, le bois, évidemment, vient d'à côté aussi, donc.
Bien sûr, on est sur un territoire de bois, il vient d'une série qui est à 10 km, de deux frères qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps, et en plus, on valorise les chutes qu'eux n'utilisent pas quand ils délinent des arbres. Pour nous, c'est une énergie qui est immédiatement disponible, qui sera toujours disponible, et contrairement à d'autres, et entre guillemets, bon marché aujourd'hui pour nous en termes de production.
Alors Charlotte, en fait, vous aviez un peu l'envie de boucler les cycles, hein, comme on dit, c'est-à-dire d'être assez cohérent, quoi, un peu de hasard.
Ouais. Complètement, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est orienté sur des farines toutes locales originaires de l'Auvergne. Voilà, après on a aussi un peu poussé sur la façon dont travaillaient les gens, parce que dans l'idée on s'intéressait à tout ce qui était farine biologique, mais on s'intéresse aussi à comment ces farines, est-ce qu'elles sont produites. Donc l'idée c'était de rencontrer les agriculteurs, de voir avec eux un peu comment le blé ou le seigle poussaient sur leurs parcelles. Est-ce qu'ils utilisent des intrants ou pas, quelles sont leurs techniques culturelles, etc. Parce que tout ça, pour nous, ça a beaucoup d'importance.
Alors d'où elle vient, cette farine, cette matière première, d'où vient-elle ?
Alors le blé, il vient de la ferme des Hirondelles, qui est dans le sud Cantal, dans la châtaigneraie cantalienne, comme on l'appelle. Le petit épaute vient de chez Jean-Michel Cellier, ferme de la Pérère, dans le Puy-de-Dôme, qui est sur les contreforts là, des monts du Saint-Cy, on va dire, pour faire très loin. Et le seigle, on n'est pas encore tout à fait décidé sur notre fournisseur.
Charlotte, vous n'aviez pas non plus envie de vous tuer, mais totalement au travail, hein, pomponnette, non, c'est pas votre genre. Quel est le modèle que vous souhaitez mettre en place ?
Donc déjà, on ne travaillera pas de nuit, on va travailler la journée. Oui. L'idée, c'est donc de fabriquer le pain au fournil, en plus un fournil complètement transparent pour que les gens puissent voir comment on travaille, et de vendre le pain en fin de journée, quand il sortira tout chaud du four. Et donc vendre à la population locale sur ces créneaux qui vont être très courts, qui seront entre 16h et 19h, et de les vendre ensuite le lendemain sur les marchés locaux. Donc en fait, du coup, là, c'est nous qui nous déplaçons pour aller à la rencontre des clients. Et l'idée, bien sûr, c'est de ne pas faire du pain tous les jours. On va fabriquer du pain 3 fois par semaine dans un premier temps. Si vraiment la demande était croissante, on passerait à 4. Et en fait, derrière tout ça, l'idée, c'était de construire un modèle économique qui nous permette d'avoir une vie à côté, en fait.
Comment vous avez trouvé ce lieu ?
Nous, on mûrissait le projet depuis 2 ans. Moi, j'étais embauché au Parc des Volcans, et donc on réfléchissait à où et comment s'installer. Donc on a tendu énormément de perches. On est allé à plein d'endroits en France. Et en fait, on ne trouvait pas chaussures à notre pied en termes de boulangerie à reprendre, en termes de boulangerie à créer. Et on s'est dit, pourquoi on ne demande pas dans le Cantal, aux communes autour de nous, si elles n'auraient pas un local à nous louer ou pour qu'on puisse construire le fournil. C'est parti comme ça. Et en fait, on a envoyé des courriers aux communes autour de chez nous. On a eu quelques réponses, certaines négatives et deux positives, qu'on a étudiées. Et en parallèle, on a remporté un petit concours localement sur la communauté de communes, Startup Chef, organisé par la Comcom de Murat, qu'on a remporté et qui nous a permis de nous propulser sur le territoire, sur la commune qui nous avait répondu positivement et qui en fait nous proposait une maison qu'ils ont rénové. On a pu travailler avec les architectes en lien avec la commune. Et nous, on a investi sur tout ce qui est matériel professionnel. La commune a investi dans toute la rénovation du bâti. Et c'est ce qui a permis de nous lancer, on va dire, avec un investissement modéré. Nous, on a mis 60 000 euros. La commune en a mis à peu près 100 000. Et voilà, nous, on s'est endetté sur 7 ans. On est en bail commercial avec la commune. Et du coup, c'est un modèle qui permet de se lancer un peu sérieusement, mais voilà, sans s'en mettre sur 25 ans ou 30 ans sur le dos.
Alors Charlotte, la symbolique du pain, vous avez souhaité donc devenir quand même boulanger.
En fait, c'est Maëlle au départ qui avait une grande histoire d'amour avec le levain qu'il a découvert pendant un stage. Et donc ça faisait 10 ans qu'il faisait du pain pour lui et puis du coup à la maison. Et donc il m'a un peu initiée à ça. D'accord. Et en fait je suis tombée dedans aussi. Et donc par voie de conséquence, comme on avait envie tous les deux de monter notre propre entreprise, on s'est dit mais pourquoi pas se lancer dans le pain. En plus le pain c'est quelque chose qui parle, c'est un aliment qui pour nous est noble, qu'on retrouve sur toutes les tables. Et du pain je pense qu'on en mangera tout le temps, donc voilà.
Le levain, pourquoi, comment c'est venu?
Bah, le levain, c'est simple, hein. En fait, le levain, on crée la vie, quoi. Le levain, c'est un mélange de farine et d'eau qui spontanément fermente. Quand on regarde ça la première fois, qu'on voit vraiment un vrai levain démarrer, qu'on a mélangé de la farine et d'eau et qu'au bout de 4 jours, ça commence à faire des bulles et que c'est ce qui fait lever le pain et c'est ce qui donne le pain, c'est juste incroyable et c'est ce qui fait que c'est passionnant, ces fermentations, que ça anoblit les produits. Et du coup, moi, j'ai eu envie de travailler là-dessus. Et d'ailleurs, on fait pas que du levain, on fait fermenter beaucoup de choses à la maison et on s'éclate avec ça.
Ils n'ont pas encore une trentaine d'années, donc c'est de jeunes qui deviennent acteurs de leur territoire, qui ont décidé de changer de vie. Et ça marche bien, donc nous sommes à Chalignargues, nous sommes dans le Cantal. Si vous descendez le Cézallier, que ce soit à pied ou à vélo, ce que je vous conseille, vous arrivez là, dans ce coin du Cézallier, d'ailleurs, est à crever de beauté. Vous n'échapperez pas à un reportage un jour ou l'autre, c'est à peu près sûr. Des coins dont on ne parle pas, c'est mon truc. Et donc on a cette mi-chamalou, donc l'ami chamalou. Jeu de mots, poète, et ils sont très bien, ils sont vraiment très bien, et le pain est bon. Il nous reste un sixième sujet, mais auparavant.
Les oiseaux sont les gardiens du temple, tu comprends? Tu vois, si je pose ma main sur la branche d'où vient de s'envoler cet oiseau, eh bien je me sens relié à lui.
CO2, mon amour.
En réalité, le pied de l'arbre, c'est sa tête. C'est un être inversé. Les branches sont ses racines. Elles plongent dans le ciel. Dans le végétal, il y a toute la mémoire de l'univers. Vous êtes une partie de cet univers.
Sur France Inter.
Oui, avec les accents d'Yves Montand, avec le film de Benex. Alors, la vie, c'est la diversité, hein, pour que ça marche. Hein, la monoculture, ça fonctionne pas. La vie, c'est la diversité. Et cette émission copie aussi la vie. Alors, sixième sujet. Dans le cadre, on va dire, pourquoi on va parler d'oiseaux? Parce que c'est le 32e Festival international du film ornithologique de Minigoutte, qui a lieu jusqu'au 1er novembre dans les Deux-Sèvres. Alors là, on est encore dans un coin de bocage. Hein. Il y a d'autres endroits, il n'y a plus de haies, il n'y a plus rien du tout. Et ben là, non, c'est là que ce festival a posé, on va dire, ses caméras depuis déjà pas mal de temps. Et on va rencontrer un garçon qui s'appelle François Morel. Bon, vous y dites, non, c'est pas le nôtre. Et ce garçon donc, fabrique des appos. Nous sommes dans le Diwa. Et on va d'abord lui dire bonjour, François Morel.
Denis, bonjour.
Et on salue quel oiseau?
Et on salue la...
Très musicienne, la grive.
Là, on est dans la forêt de la Sarcena, sur le massif du Dufre. Et sur les épicéas qu'on voit là-bas au bout, tout en haut perché, il y a la grive musicienne. Ça ne s'invente pas. Et alors, elle va répéter plusieurs fois le... Souvent, elle répète 2-3 fois la même mélodie. Et elle va chanter comme ça. C'est la famille du merle, c'est la famille aussi du rouge-gorge, c'est tous des turdidés, donc ils ont à peu près le physiquement, ils se ressemblent, hein. On prend un rouge-gorge, on l'agrandit, on le met dans un photocopieur, on l'agrandit, on enlève tout le rouge, on met des petites taches, et puis on les file un petit peu, on peut avoir un peu la grive musicienne.
Alors tous les oiseaux chantent, qu'est-ce qu'elle a de plus? Pourquoi on dit qu'elle est grive musicienne? Et quoi, elle est maître de chorale, maître de chant dans la nature?
Elle est la musique dans la forêt. quand vous êtes dans une forêt, que vous entendez un enchantement, et elle donne le ton, hein, puisqu'elle chante perchée sur les grands arbres, donc elle est au-dessus, elle donne l'ambiance, et après tous les autres dessous, le grimpro, le roitelet, les troglodytes, tout ce petit monde va essayer de l'imiter.
Elle tient la baguette, quoi.
Elle tient la baguette, elle tient la distance, elle va chanter un bon moment, c'est beau. Et en plus, c'est un chant qui va porter loin. Vous allez croire que vous êtes à côté d'elle et finalement vous êtes sur le massif en face. Alors elle chante aussi peut-être pour compenser, parce que c'est un oiseau qui a pas mal eu de difficultés avec l'homme. On en a fait des pâtés de grive, les a chassés, mais alors de façon honteuse, avec des lecs qui sont des pièges, des pierres suspendues avec des baguettes en mettant du genièvre dessous. Et la grive vient se nourrir un peu l'hiver et pof, la pierre lui tombe dessus. Et en plus, ça tuait aussi d'autres oiseaux. Elles étaient aussi attrapées avec de la glu. Elles étaient attrapées avec des grives qui étaient mises dans des petites cages, qui attiraient les autres. Enfin, c'est terrible.
Donc elle a payé un lourd tribut, on va dire, un peu à la connerie humaine, quoi.
Voilà. Alors maintenant, on n'a plus le droit de faire de pâté avec. Hein. C'est les tourneaux qui servent de grive. Et puis, la grive, elle s'est rendue compte aussi que les hommes n'étaient pas tout à fait pareils partout. En Angleterre, la grive vient dans les jardins. C'est un oiseau familier, hein, comme on peut parler des mésanges ou du merle. Hein. Alors que chez nous, elle est encore loin de venir dans le jardin. Parce qu'elle a ce souvenir de la façon dont les hommes la traitent. C'est un oiseau que l'on peut bien observer en hiver, parce qu'elle est migratrice. Hein. Donc en hiver, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Elle vient, elle va se chercher un petit peu à manger, elle va venir un peu se restaurer pendant son long voyage. Et ici, dans le Diwa, on a pas mal de genièvre et de baies, et elle va venir se servir ici. C'est pour ça qu'on peut bien l'observer. Elle ne chantera pas à ce moment-là, elle fera simplement ces petits cris d'appel qui sont des petits tsip, 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 comme ça, qui sont ces cris de, on peut dire, de ralliement. Quand elles sont dans le ciel, ce tsip, tsip, ça porte assez loin aussi. Elles vont se regrouper et pouvoir comme ça passer 2-3 montagnes.
Alors c'est une formidable compositrice. Elle imite aussi d'autres oiseaux ?
Oui, elle est capable d'imiter d'autres oiseaux. Bien sûr, elle se moque du merle, elle peut arriver à se moquer aussi de... Je suis sûr qu'elles sont capables de faire des rires de pic. Vous savez, le pic a un « comme ça, hein, c'est toute la famille des pics, les pics verts, le pic noir avec son « Et la grive, je suis sûr qu'elle arrive à faire quand le pic est sur un arbre, il fait le « Et je suis sûr que là, les grives arrivent à se moquer de lui. Non, c'est des coquines, hein, c'est des coquines les grives. Mais d'autres oiseaux aussi sont imitateurs. Hein. Le jay est capable d'en imiter beaucoup, les tourneaux. Donc il faut se méfier. Quand on entend un oiseau qu'on croit le reconnaître, c'est encore mieux peut-être de le voir pour être sûr qu'il s'agit bien d'une grive ou d'un étourneau ou d'un autre oiseau.
Bon, on va se quitter avec cet oiseau coquin, François, et puis à très bientôt.
À très bientôt, Denis. Au revoir.
France Remorel, le fabricant d'Apo, donc dans le Diwa, à Beaumont-au-Diwa, vous avez sur le site de CO2 Mon Amour, ce qui fait, sont vraiment des petites merveilles. Un message, 01 56 40 40 35 pour terminer.
Bonjour CO2 Mon Amour, bonjour la France Inter. La pollution de la vallée de l'Arve fait régulièrement couler de l'encre dans les médias. Et dans ce contexte, je voulais vous proposer ce sujet d'actualité qui est Atmosphère, le web documentaire pour changer d'air. Les associations Inspire et Cellules Vertes de Savoie ont voulu aller plus loin et après plus de 2 ans de travail, Atmosphère a été mis en ligne le 23 septembre dernier. Ce format interactif de 8 chapitres informe sur les sources de la pollution atmosphérique et surtout propose des solutions pour la réduire. Atmosphère, c'est 35 films courts, 46 personnes interviewées, mais aussi une boîte à outils pour devenir un des acteurs de l'amélioration de la qualité de l'air. Découvrez Atmosphère sur labelleéchappée.fr, puis Atmosphère WebDoc. Et si vous souhaitez organiser une conférence ou une soirée thématique sur Atmosphère, retrouvez toutes les informations sur inspire74.com. À bientôt.
Oh bah oui, ça valait le coup hein, de respirer correctement. Donc 01 56 40 40 35, c'est le numéro du répondeur. Vous en avez l'habitude. Je vous salue en vous souhaitant un excellent week-end, en remerciant Kevin Pelot et Gilles Gaillard à la technique, Camille Blanès, notre assistante, collaboratrice et plus, etc. Et Xavier Pessudia, notre réalisateur, bien sûr. Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et la semaine prochaine, eh bien, on parlera abeilles avec Éric Tourneret et puis une vétérinaire apicole, Claire Beauvais, et d'autres personnes. Donc on parlera des abeilles. Rediffusion, ce sera entre 5h et 6h du matin la nuit prochaine. Avec l'heure d'écart, hein. Oui, là, faut régler les bébés, faut régler les vaches, faut régler tout le monde. Et puis les petits bateaux, la tue du Mont-Petit-Loup. Voilà, la tue du Mont-Petit-Loup, ce sera 19h54. Demain, je vous souhaite encore un bon week-end.